la deuxième partie de Gironde Analyse, l'émission 100% supporter. C'est tout de suite sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur girondeanalyse.com.
On est de retour sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rigfm.fr et journaliste.com. Mais là, je vous laisserai insérer puisqu'on a un auditeur qui appelle.
Voilà, ça y est, ça marche. Voilà.
Donc, on remercie évidemment Monsieur Guerpin et le groupe Faya Vinci pour... Pour nous avoir accordé cette interview. Et voilà, on va rester en contact avec le service. Donc le podcast, on va essayer de le mettre en ligne le plus rapidement possible.
Avant que je dorme, ce soir.
Voilà, le plus rapidement possible. Et
merci aux gens qui ont participé sur le chat aussi.
Voilà, sur Twitter, partout. Si vous avez toujours des questions, eh ben, faites-nous parvenir vos questions et on essaiera de refaire de toute façon une émission d'ici 2015 pour l'ouverture et pour voir un petit peu peut-être l'avancée du chantier.
Pour négocier nos places.
Voilà. Et les gars, vous vous imaginez en 2015, sérieux?
Moi, je m'imagine pas du tout.
Bah, il va falloir, mon grand, parce que ça va arriver vite.
Pas forcément du stade, mais dans nos vies de tous les jours, est-ce qu'on habitera encore Bordeaux? Est-ce
que voilà, oui. La première année, j'ai fait l'abonnement là-bas.
Moi, c'est dans le cœur, Bordeaux, à jamais.
Ouais, d'accord, mais bon, on a des vies.
Non, mais la ville,
bien sûr, mais est-ce qu'on y habitera encore?
Bon, bref, on n'est pas là pour parler de nos cas personnels. On va repartir dans l'actualité basique de Gironde Analyse.
La question peut-être, non?
Oui, la question que personne ne se pose, bien évidemment, oui. Puisque c'est deux questions ce soir. Ouais, attendez, on a quand même fait des choses en grand. Avec une question dédiée à notre émission. Hein. La question que personne ne se pose ce lundi 26 août 2013, à l'heure où l'émission passe en mode nouveau stade de Bordeaux. Et en plus, j'ai même pas mis le jingle, un certain Clément me tirait les oreilles, mais c'est pas grave. À l'heure où l'émission passe en mode nouveau stade de Bordeaux, que serait selon vous le meilleur nom en 2015? Alors, vous retenez bien, je vous réponds après. La Cochonou Arena, l'amour du goût et de la boucherie qui va avec. Enrique Like This. Stadio Calar VC. Colore l'eau en bleu et pas que. Ducrot Arena, car Ducrot se décarcasse.
Si on se fait chier au stade.
Ça en fera au moins un au stade. Le McDonald's Arena, certains de nos joueurs ne sont plus au kilo près. Le Kleenex Arena, car il y a toujours des supporters pour ne faire que pleurer. Et ensuite, Microsoft Apple Arena, y a-t-il un pilote dans l'avion?
Celle-là, tu peux nous la réexpliquer.
Alors, celle-là, explique-la, ouais. Parce que
Steve Ballmer, le PDG de Microsoft.
Voilà. Ouais, le numéro 2 derrière Jobs. Quand
donc
il
le successeur du.
Non, sur Microsoft.
Ah, Microsoft,
Ballmer,
pardon. C'est Bill Gates. Donc.
Voilà, c'est le PDG de Microsoft, puisque Bill Gates ne l'est plus depuis 2000. Et a démissionné, ne sera plus PDG dans un an. Donc, ça laisse. Un petit peu comme s'il n'y avait plus personne à la tête. Et puis depuis que Jobs est mort, ça a quand même du mal à repartir du côté d'Apple, comme s'il n'y avait personne dans l'avion. Et puis comme on n'arrête pas de dire qu'à Bordeaux, il n'y a personne qui dirige le club, et ben on demande est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion. Voilà, comme ça vous savez.
Avec les signes.
Et donc moi je vais répondre la Ducrot Arena.
Ducrot Arena pour
Moi aussi. Ouais.
Pour moi, ce sera la Kleenex Arena.
Parce qu'à quoi ça sert que Ducrot se décarcasse?
Ok.
Bon, mais moi, ça sera le
Cochonou Arena.
Les gars, parlez pas tous à la fois.
Ça sera le Cochonou Arena parce que je suis sûr que Cyril et Clément aiment l'amour du goût et de la boucherie. Donc, en leur hommage.
Tout ça, franchement, la dernière fois, dois-je te rappeler, Marc, c'est toi qui as ramené un saucisson la dernière fois.
Oui, parce que vous me l'aviez demandé.
Bon, les gars, on passe à autre chose.
Allez, on passe à autre chose. Et puis, de toute façon, on va avoir un supporter au téléphone avec
nous. Parler charcuterie, moi, je trouve ça bien pour introduire Bordeaux-Bastia.
On a un supporter dont j'ai totalement oublié de demander le nom dans l'euphorie de la reprise, donc tu vas pouvoir nous donner ton
nom. On va le deviner.
Doumé.
Non, c'est pas Doumé, c'est Dexter.
Ah, Dexter. Ça va?
Ah oui, c'est le fameux Dexter.
Ah, mais je croyais que c'était un Corse qu'on avait.
Non, un Corse. Dexter Corse, ça se fait pas quand même.
Donc je suppose que tu. Alors laisse-moi deviner, mais je pense que dans la question que personne ne se pose, tu prends l'avion. Y a-t-il un pilote dans l'avion?
Bah bien sûr.
Et Dexter avec Corse, ça reste un peu dans le domaine.
Connu quand même.
Non mais après, tu sais pas comment il s'appelle. En vrai, c'est quand même pas ton vrai prénom, Dexter. Non, je crois
Dexter,
pas.
Dexter, il a aucun vrai prénom.
Ouais, voilà, ça y est. T'as pas pris le boulard, toi, un peu avec ton identité.
Ah si, j'ai le boulard. J'ai le boulard en même temps, c'est c'est le symbole du club des Girondins. Les Girondins, ils ont assez le boulard.
Allez, on va partir sur le match Bordeaux-Bastia, que Bordeaux a remporté 1-0 ouais. sur un but de CV en première période. Mais écoute, on va te laisser lancer le match. Qu'en as-tu pensé?
Du match ouais, des Girondins, enfin, je n'ai pas passé grand-chose.
Non,
grand
je suis de Paris.
Pardon?
Celui de Paris.
Non, mais
j'entends rien.
Non, mais vas-y, laisse tomber, il raconte des conneries.
J'allais dire que j'ai pas pensé grand-chose du match des Girondins, parce qu'au final, il n'y a pas eu grand-chose au niveau du jeu. Le jeu, au final, c'est depuis que Gilot est là. Enfin, je veux pas l'incriminer, mais le jeu de Gilot, c'est pas grand chose. Enfin, il installe pas grand chose au final. Il a pas forcément des résultats négatifs, mais au niveau du jeu, globalement, c'est pas joli. Enfin, il faut être honnête, c'est pas top. C'est pas top. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah,
disons que Bordeaux a quand même eu quelques occasions dans le match.
Ouais, non, mais ça va. Non, mais ça va. Oui, non, sauf que
Dexter, tu me demandes notre avis, donc on te répond.
Oui, d'accord. Il faut prendre en compte que Bastia, c'est entre le 15e et le 20e budget, donc il faut se calmer. Il faut penser à ça.
Donc calme-toi et laisse-moi finir. On a eu quelques.
Je te laisse finir.
On a eu quelques occasions franches,
oui.
Notamment des occasions qu'on pourrait qualifier de immanquables. Certaines en compte. En oui. première période, il y a eu très 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 peu de choses. C'est vrai que dans le contenu, dans l'animation du jeu, on le sait de répéter, dès que Bordeaux arrive dans les 40-30 derniers mètres, il n'y a plus rien. C'est vrai que c'est mal bordelais qui dure depuis plusieurs saisons, et sur ce point-là, je te rejoins.
À la mi-temps, c'est 17
centres.
Je crois qu'à la mi-temps, c'est 17 ou 18 centres pour Bordeaux.
Oui, voilà. Mais
donc, c'est passé beaucoup sur les côtés.
Oui, voilà. S'il n'y a que Diabaté au centre pendant les 18 centres, au final, il ne va pas les choper pendant 18. Enfin, ça ne va pas être possible. Il faut du surnom. S'il n'y a pas de surnom, on ne pourra pas l'avoir.
Mais on n'a pas été dangereux sur les centres. Hein.
Voilà, mais non, mais sauf que le jeu de Gilot, c'est trop frileux. Il installe pas un jeu. Enfin, c'est pas assez. Au final, c'est pas assez parce que c'est trop frileux.
Il bricole depuis deux ans. C'est vrai qu'au final, alors est-ce qu'on est en droit de, est-ce que c'est légitime de le vouloir? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, c'est quoi la patte Gilot sur le jeu des Girondins? Incapable de le dire. Il bricole. Ah, ben, ouais, après, il a des résultats là, globalement, mais il bricole. C'est vrai qu'il y a pas de patte Gilot.
Tu as tout dit, Emric. La patte de Gilot, au final, on est incapable de la dire.
On l'avait vu à Sochaux. Ouais, à Lens aussi.
Oui, voilà, on l'a vu à Sochaux.
Mais parce qu'il avait
ça fait longtemps maintenant. Hein. Ouais, faut être honnête, ça fait longtemps. Au final, globalement, c'est chiant. Enfin, faut être honnête, entre supporters girondins, c'est très chiant.
Le club est dans une phase de. C'est horrible à dire parce que c'est un terme qu'on utilise énormément dans le football, mais je pense que là, il n'est pas galvaudé. Le club est dans une phase de transition en attendant le nouveau stade.
Ouais,
on
a été champion
en 2009, on attend le salaire en 2015, et entre-temps, on vivote, on a un budget qui se maintient dans les 6 meilleurs, même s'il baisse.
Ouais.
On a un effectif qui reste. On peut pas dire que l'effectif est mauvais, mais il n'est pas excellent non plus. On a l'effectif 7ème, à la place qu'on a fait l'an dernier.
Voilà, c'est ça, entre 7 et 12. C'est ça.
Après, moi, je tiens à nuancer parce que je considère que on a quand même moyen de mieux faire. Je trouve ça dur de dire qu'on a un effectif de moyen tableau. On n'a pas forcément beaucoup de monde sur le banc, mais on a quand même.
Le banc il est famélique, ça c'est sûr. Le banc est très 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 famélique. Il n'y a pas grand chose, ça c'est sûr.
On a quand même des joueurs qui sont capables de proposer autre chose et qui l'ont démontré.
Sur le banc place.
Non, je parle dans le jeu.
Mais
le problème, c'est que tu m'as coupé dans ma phrase, Dexter.
D'accord, excuse-moi, Dexter.
On peut sortir 13 joueurs capables de proposer quelque chose.
Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Genre 13-14 joueurs qui sont présents sur un match. Quoi. Je vois ce que tu veux dire, les 14 joueurs vraiment présents sur un match de championnat.
Non, tu n'écoutes point ce que je dis, Dexter. Je dis juste qu'on a des joueurs qui, techniquement, et ont prouvé dans le passé qu'on peut avec ça faire autre chose dans l'animation, faire autre chose une fois qu'on a la possession du ballon ou même en contre. Le souci de Bordeaux, c'est déjà le positionnement de certains joueurs, mais ça, je cesserai de le répéter depuis plusieurs années. Et ensuite, ce qu'on décide de faire avec le ballon. Moi, il y a des choses qui m'exaspèrent assez, et la façon dont on accompagne chacune de nos attaques et la disponibilité qu'on propose au porteur de ballon. Alors c'est vrai que c'est compliqué de dire que c'est forcément la faute de Gilot, mais j'ai l'impression c'est aussi qu'un joueur, un joueur est assez grand et tout seul pour savoir que quand son camarade a le ballon au pied, il faut qu'il propose une solution. Pour moi, ça fait partie
des matchs. Gilot qui met le système de jeu, parce que s'il met aucun, après ça dépend beaucoup du milieu défensif. Après, je sais pas comment toi tu veux mettre le milieu défensif, c'est vachement important, hein, parce qu'il faut que tu mettes. Gilo, il a déjà tenté Poco N'Gemo. Poco N'Gemo, ça a pas fait grand chose, faut être honnête. Après, la deuxième journée, il a fait quoi? Il a fait N'Gemo Plasil. Troisième journée, il retente Poco Plasil. En fait, il met toujours Plasil. Sauf que Plasil, est-ce qu'il a la tête encore au Girondin? C'est ça qu'il faut se poser comme question.
Bonne question, mais bon, ni toi, ni moi n'avons la réponse.
Si on parle que du match de ce week-end, la première mi-temps est quand même. Bon, alors certes, Bastia, c'était difficile de faire pire de ce qu'ils ont fait.
Mais en tout cas,
ils ont pas franchi. J'ai regardé la pendule, le Carasso, il touche le premier ballon, la 42e minute quand même.
Mais il a pas un tir. Enfin, il a quasiment. Il y a quasiment pas d'action dangereuse à mettre au crédit de Bastia.
Non, mais. En tout cas, sur le dernier match, Plasil, c'est vrai qu'il était. Il était présent, faut être honnête, ça c'est vrai. Plasil sur le dernier match, il était présent, mais s'il est présent un match sur trois, ben on va pas aller loin.
Plasil, enfin si je peux juste me permettre de dire quelque chose, Plasil sur ce match-là n'évoluait pas à côté d'N'Gemo. Moi je l'ai pas vu forcément évoluer.
Mais tu l'as vu où alors?
Moi je l'ai vu évoluer plus haut, plus haut sur le terrain, plus haut, ouais. Avec un Obraniak sur le côté
et
droit.
Tu l'as vu entre 8 et 10 alors? Le positionnement entre 8 et 10.
Oui, bah son poste, selon moi.
Enfin oui, même encore pour moi il devrait être encore plus haut. Mais je trouve.
Ah tu voudrais qu'il soit plus haut entre. Tu voudrais qu'il soit au-delà de 10.
Ah moi je pense qu'il. Bah, je pense qu'il c'est même quasiment.
Les rares fois où il a joué là, c'était pas
bien. Un deuxième attaquant.
Pour moi, ça peut se comprendre, mais oui, d'accord.
Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que et Marc, je crois qu'il avait dit vendredi, on peut pas comparer le Plasil, enfin, on peut plus comparer le Plasil d'aujourd'hui au Plasil de 2009-2010, puisqu'il avait derrière lui un joueur qui s'appelait Fernando, qui faisait le boulot,
Ça n'a rien à voir. Fernando, c'était plus un 6-8. Donc,
ce qui permettait à Plasil d'évoluer plus haut. Qu'il était nettement meilleur. Après, le problème bordelais pour moi, il n'est pas dans le positionnement de Plasil, parce que c'est pas en positionnant Plasil plus haut que ça va révolutionner les choses. C'est trouver quelqu'un qui est capable de faire le lien entre la récupération du ballon et l'utilisation.
Oui, mais d'accord. Je veux bien reprendre dans ce sujet-là, mais le problème c'est que normalement c'est Obraniak qui est censé faire le lien. On est d'accord.
Enfin, Obraniak il est mieux droit, donc on va pas demander à Obraniak de faire le lien.
Obraniak c'est pas forcément mieux droit. Déjà, c'est un milieu qui est offensif, qui est capable d'organiser le jeu. Bizarrement, il organise rien du tout parce qu'il est en chaussons, il fait rien.
Dans quel club il organisait le jeu?
Il organise rien du tout parce que
c'est pas son rôle. Ouais. À Metz, il n'était pas meneur de jeu. À Lille, il n'était pas meneur de jeu. Il n'y a qu'à Bordeaux, Plasil, c'est pareil. À Monaco, il n'était pas meneur de jeu.
Il faut rappeler Meriem. On rappelle Meriem pour organiser le jeu.
Arrêter de vivre avec le fantasme du meneur de jeu.
C'est ce qu'on disait la semaine dernière.
Non, mais c'est quand même là où je suis un peu d'accord avec Dexter. C'est pas un meneur de jeu au sens 10.
Voilà,
c'est quelqu'un qui est capable normalement, ou à qui Gilo a confié les clés du jeu, une partie des clés du jeu. Moi, j'ai le souvenir de ce que nous a dit Francis Gilo un jour. Il nous a dit Obraniak, c'est quelqu'un qui, sur une passe, peut débloquer un match.
Oui, voilà, c'est un créateur.
Cet Obraniak-là, depuis un an, il n'existe pas.
Voilà. Il n'existe pas, il fait plus rien. Globalement, depuis, il ne fait plus rien. Enfin, Obraniak et Plasil, ils sont en dessous de leur niveau. Enfin après, j'espère que j'arrive à comprendre le niveau d'Obraniak et de Plasil quand même.
Obraniak,
sinon,
juste une mini nuance. Certes, les performances globales sont pas bonnes dans l'ensemble.
Elles sont pas top, c'est vrai.
Ouais, mais j'ai vu une stat. Moi, il est impliqué l'an dernier sur la saison 2012-2013 sur 33% des buts de Girondins.
C'est
énorme, c'est 1 sur 3.
33% Obraniak.
Ouais. Et sachant que impliqué, ça veut dire soit un but qu'il a marqué, l'an dernier il en a marqué.
Oui, soit il a fait l'avant-dernière passe.
Soit il a fait.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Après, il y a des implications indirectes qui sont discutables,
il a deux frappes là contre Bastia en première mi-temps.
Au mois de novembre 2012. Oui, 2012. Au mois de novembre 2012, les résultats des Girondins qui font un très bon mois de décembre, ça correspond à la période où Obraniak est blessé. Je sais de source sûre qu'il a joué aussi une bonne partie de la deuxième partie de la saison 2012-2013 blessé.
Après, il y a quand même une nuance à faire. Là, il n'est plus blessé. Attends. Donc là, on peut parler de Obraniak maintenant. Déjà, il y a une question qu'on peut se poser, c'est étant donné qu'on demande à un meneur technique non rapide d'animer le côté droit. Parce que c'est quand même milieu droit qu'il a joué.
On n'a aucun milieu droit, c'est ça le problème. Depuis combien? Depuis quoi? Depuis Alejandro Alonso. On n'a pas de milieu droit, c'est ça.
Donc,
le spécialiste du poste, c'est Ben Galfala.
Si on prend exactement, pour revenir à ce que je disais, on met quand même quelqu'un qui est censé mener le jeu côté droit. Et ensuite, on a quelqu'un d'assez explosif côté gauche. Donc,
on peut aussi comprendre que les difficultés de l'enjeu, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est ce positionnement-là. Et puis sans faire une fixation sur Aubryniak, il n'a pas non plus été offensivement catastrophique sur ce match-là. On avait mis vendredi le fait que Bordeaux devait faire attention à l'impact dans le jeu et à sa force de récupération dans les duels. On remarque que Bordeaux en première mi-temps, là où Bordeaux a quand même tenu le ballon, on s'est possédé quelques occasions et non seulement marqué son coup franc, que Bordeaux en termes de récupération avait des lignes resserrées et que tout le monde faisait le pressing. J'ai bien dit tout le monde. On s'est aperçu qu'en deuxième période c'était moins le cas, dont notamment Aubryniak, à qui on peut encore avoir reproché d'avoir beaucoup marché. On peut aussi se demander pourquoi, dans le cadre où Bordeaux avait le mal à remettre le pied sur le ballon et à récupérer le ballon, comment se fait-il que Gilot n'ait fait aucun changement à ce moment-là. Voilà, moi c'est plus ça qui me dérange. Après, sur le match de Bastia, on avait un match qui était très compliqué et on a quand même réussi à s'en sortir. Je vous rends la parole, j'ai le téléphone qui s'est... Ouais.
Dexter, juste pour conclure, parce que comme on a d'autres auditeurs derrière. Allô ? Allô, allô ?
Il est parti.
On a perdu Dexter, tout va bien, non ?
Allô ? On a perdu Dexter, je crois.
Oh là.
Visiblement, on l'a perdu. Donc,
sur le voilà. Chat, il était sur le chat, oui ?
Dis-nous que t'es vivant. Ouais. Ou alors il y a un problème technique de l'autre côté, peut-être.
Ah, peut-être que c'est lui qui rappelle, d'ailleurs. Bon, voilà.
Allô ?
Allô.
Ouais. Ah ben voilà, c'est lui qui rappelait, fantastique.
Donc oui, ben on a eu un souci de téléphone. Donc je te disais pour si t'avais d'autres choses à dire pour conclure, puisqu'on a des auditeurs derrière aussi.
Moi j'appelle juste là maintenant.
Oui, oui, ah, non, mais justement pour conclure.
Ah mais c'est pas Dexter, donc je lui demande pas de conclure.
Ok. Donc pourquoi c'est pas Dexter ?
Mais j'ai demandé si c'était Dexter au téléphone, tu m'as répondu oui.
Non.
D'accord.
Eh ben, vas-y, donc présente-toi, dis-nous okay. Pourquoi tu nous appelles. Wow. On s'excuse direct, encore auprès de Dexter.
Donc on a dû raccrocher à la tronche de Dexter. Donc, s'il veut rappeler tout à l'heure, après pour conclure, elle est bienvenue.
Voilà. Donc, je sais pas qui c'est qu'on a à l'antenne.
C'est Gabriel.
Gabriel.
Hey, Gabi, comment ça va?
Ça va. Voilà. Alors, je vous appelle. Alors déjà, je voulais mettre quelque chose au point.
Oui.
Parce que. En fait, bon, vous savez tous qu'il y a eu le match de Paris dimanche.
Oui,
le match
et
de
donc,
Paris.
Sur ah, non, Facebook, oui. Et donc sur Facebook, je me suis fait chambrer.
Ah bah oui, clairement.
Oui, sauf qu'attendez, je vais finir l'explication.
Vas-y.
C'est que, alors un, comme je disais, je suis pas supporter du PSG, je suis supporter de Bordeaux.
Tant mieux.
Et la deuxième chose, c'est que j'étais avec des copains et on m'avait lancé un pari.
D'accord, ok. Non, parce que pour la petite histoire, j'ai ce monsieur donc sur mon ami Facebook et sur son mur j'ai vu emploi, enfin fan du PSG, enfin un truc.
Ah d'accord,
un
il truc avait fait pirater son compte Facebook voilà, donc, par des amis et supporters du PSG. D'accord.
Voilà, donc c'est pour ça que je me suis interrogé s'il n'avait pas retourné sa veste.
Et donc
je suis heureux d'apprendre.
Il a appelé
toujours...
pour s'excuser publiquement.
Non, non, non. Il a appelé pour réagir sur le match
pour
de
Pour se flageller en public.
Non, non, non.
Voilà, c'est ça. C'était un pari qu'on m'avait lancé. Et bon, vous voilà. Savez, quand on lance des paris, la plupart du temps, on accepte.
Et visiblement, t'as perdu.
Ouais, j'ai perdu, ouais.
Bon, revenons à des choses plus girondines. Je pense que tu voulais intervenir sur le match de Bordeaux face à Bastia.
Ouais, parce qu'on y était avec ma femme.
Oui.
Et bon, moi, j'ai vu, on va dire, parce que nous, on n'a pas été déçus. Donc, pour nous, on a vu un bon Bordeaux, si on peut dire ça comme ça.
Oui.
Un bon Bordeaux, oui, on peut. Ouais.
Oh bah tu dis ce que tu veux.
Selon toi, c'est un bon Bordeaux, c'est ça?
Bah, selon moi, par rapport au. Moi, je vais pas revenir sur le match de Monaco, parce que sur le match de Monaco, bon, vous avez bien vu, j'ai pas appelé, parce que le début de saison, j'étais pas trop disponible. Mais bon, là, j'ai pu enfin aller voir celui-là. Donc, pour moi, oui, là, ça a été... Bon, j'ai pas dit que ça a été un match extraordinaire non plus, mais pour moi, c'était un bon match, quoi.
Dans les deux périodes, pour toi, t'as trouvé Bordeaux...
Plus la première.
Ouais, plus la première. D'accord.
Plus la première mi-temps. La deuxième mi-temps, je me suis un peu plus... je vais pas dire que je me suis ennuyé, mais je l'ai trouvé un peu plus longue, quoi.
L'entrée d'Ilan a quand même... pas mal changé cette équipe de Bastia
côté Bastia
ouais. Et ça nous a fait un peu plus, ça nous a un peu plus mis en difficulté en deuxième mi-temps qu'en première.
Ouais, et j'ai regretté par contre de pas voir, enfin j'ai regretté, ouais, après comme j'avais dit c'était le choix de notre entraîneur, mais j'ai regretté de pas voir notre nouvelle recrue là, comment
Orban.
Il s'appelle
Lucas Orban. Orban. Ouais. Bon, tu le verras bientôt.
Moi aussi, c'était mon petit regret de la soirée, tu vois, de pas l'avoir vu au moins 10-15 minutes.
Mais moi, je pensais le voir en fin de deuxième mi-temps, comme il sait bien faire d'habitude, Gilo, mais non, là.
Les gars, j'ai une question et c'est Gabriel qui va y répondre en premier, parce que c'est l'auditeur et qu'il a moins de temps de parole que nous, forcément. Justement, on est tous d'accord pour dire que la première mi-temps bordelaise est bonne et la deuxième l'est moins. Quelles sont les raisons pour vous de ça, de ce contraste? Déjà, c'est pas la première fois qu'on le constate en plus.
Quelles sont les raisons? Moi, si on part par rapport déjà à la saison dernière, toutes les deuxièmes mi-temps, on les a faites pareil. Alors, je sais pas, peut-être que. Je sais pas, ils se voyaient mener 1-0. Enfin, de toute façon, ils ont gagné 1-0. Mais bon, vu qu'ils menaient 1-0, je pense qu'ils voulaient, sûrement assurer le match. J'en sais rien.
Là, le niveau de Bastia, quand même. Oh, il part, oui, bah oui.
Bon. Alors, vas-y, mais non, t'as commencé.
Non, je dis, c'est quand même à mettre en relation avec le pitoyable niveau de Bastia en première mi-temps, quand même.
Si Bordeaux était bon, c'est parce que Bastia. D'ailleurs, si Frédéric
Hans
a fait un changement.
Ah, pardon.
Dès la 35-36e minute de jeu, entre Ilan, c'est qu'il n'était pas du tout content du comportement de son équipe. C'est vrai que dans les duels.
Il y en a un qui a dégagé au bout d'une demi-heure.
Mais
je sais
pas.
C'est
pour qu'il rentre. Je sais plus qui c'est, mais dans les duels, il se faisait battre par tous nos joueurs. Alors on sait qu'un joueur comme Poco est très performant dans les duels, mais bon, quand tu vois qu'il en gagne, sans exagérer, je pense 85%, c'est peut-être aussi que l'adversaire n'y est pas. Et c'était pareil pour beaucoup d'autres joueurs.
Mais leur défense, Modesto.
Celle-là, elle a tenu.
On le verra
au moment des notes. Diabaté n'a pas été bien noté. C'est aussi, il faut le dire, parce qu'il y avait des adversaires en face qui ont fait ce qu'il faut pour qu'il soit moins influent.
Moi, je veux juste revenir en plus du mauvais. Enfin, parce que j'ai trouvé que cette équipe de Bastia défendait très mal, pressait très bas déjà et très mal. Donc c'est aussi, et ça explique peut-être le coup tactique qu'a tenté Hans en faisant rentrer Ilan. Mais j'ai aussi trouvé des joueurs qui combinaient bien le côté girondin, qui on va dire faisaient un pressing correct. C'est-à-dire qu'on récupérait bien le ballon et pour une fois on savait bien l'utiliser, sauf toujours le même problème, les derniers mètres. Mais je veux dire, on arrivait toujours à récupérer le ballon à hauteur de notre ligne médiane quasiment, donc on récupérait très haut le ballon. Et par contre, on s'est projeté 2-3 fois en contre assez rapide à une touche de balle, voilà. Mais après, en deuxième période, je pense que ce qui explique la moins bonne prestation girondine, c'est tout simplement le recadrage tactique des Bastiais, parce que ils ont pressé nettement plus haut en deuxième période, ils ont mis un peu plus d'agressivité dans les duels, et Bordeaux a coulé parce que justement ils n'arrivent pas à maintenir cette exigence cette exigence, pas d'état d'esprit, mais cette exigence de
cette rigueur,
la rigueur
comme beaucoup d'équipes de Ligue 1, même le PSG, on n'est pas capable de dominer un adversaire du bout à l'autre.
Non, mais là où je voulais aussi en venir, c'est que moi, tout à l'heure quand on avait Dexter au téléphone, je disais ça. Je trouve que Plasil aussi a reculé pas mal en deuxième période. Ça explique aussi peut-être l'absence de relais au milieu de terrain. Et notamment avec un Aubryac qui n'était vraiment pas du tout concerné par les tâches défensives, qui restait très haut sur le terrain, ce qui créait aussi des brèches côté droit.
Juste un mot sur ça, Gabriel, peut-être des joueurs que tu as trouvé bons ou moins bons côté bordelais?
Bon ou moins bon, non.
Bah, t'as trouvé que l'ensemble était correct, quoi. Globalement, il n'y avait pas de tir au flanc ou de stars qui ont brillé particulièrement?
Non. Non, pour moi ça a été correct. Je vais pas dire qu'il y a un joueur qui a plus brillé que l'autre.
C'est bien de dire ça, moi je trouve, parce qu'au moins ça veut dire que l'équipe a tiré dans le même sens.
Oui, exactement. De toute façon,
Enrique le disait en conférence de presse avant le match, et il a globalement raison quand même. Dans cette équipe, mis à part peut-être un ou deux joueurs qui sont quand même pas peut-être intrinsèquement au-dessus de la moyenne, on n'a plus de grands joueurs capables de faire la différence. Donc si jamais sur 11 joueurs t'en as un qui tire pas dans le même sens que les autres, ça se voit tout de suite. Et là, même s'il y a eu des moments difficiles dans le match, et comme je le redis, Bordeaux n'est pas capable de tenir tout un match en dominant, et ça me choque pas de le dire parce que peu d'équipes en sont capables. Si au moins on arrive à être solide, ça peut nous permettre de tenir des succès. Marseille l'an dernier, s'ils ont fini deuxième, c'est parce qu'ils ont gagné énormément de matchs 1-0. Donc si nous on est capable d'en faire autant, alors on finira sans doute pas deuxième, mais c'est en gagnant des matchs de ce genre là contre des équipes plus faibles que nous. Rappelez-vous l'an dernier tous les matchs nuls qu'on a fait contre des équipes du genre Bastia. Eh ben si jamais on avait su les gagner 1-0, qu'on a su gagner ce match là, eh ben au lieu d'être 7e, on aurait peut-être fini 5e, ou voilà.
Marc, et après on conclut.
Oui, deux choses. Déjà, je vais rebondir sur ce que dit Emeric, parce que j'avais dit quelque chose vendredi. J'avais dit que le match n'était pas capital, mais j'avais dit qu'on apprendrait beaucoup de ce match.
On va pas refaire 20 minutes là-dessus.
Non, non, puisque je disais qu'on verrait si Bordeaux arrive enfin à mieux gérer ses matchs. Alors, c'est pas parfait, mais il y a quand même beaucoup mieux par rapport à l'année dernière.
Sans certique, en plus, on peut le noter, même si c'est qu'un match.
Et donc, c'est quand même, voilà, même si c'est que le premier match contre une équipe beaucoup plus faible que nous, c'est déjà un bon point, chose qu'on n'arrivait pas à faire l'an dernier. Faut-il rappeler le nombre de points qu'on a perdu à domicile contre les petites équipes. Donc déjà, ça c'est une bonne chose pour commencer la saison, même si contre Toulouse on a peut-être préféré faire mieux. Il y a une deuxième chose, je rejoins ce que disait Thibaut tout à l'heure. Je pense que la seconde période de Bastia, elle dépend autant de la nouvelle volonté de Bastia sur le terrain en seconde période que de la baisse des Girondins. Je me souviens de Mariano, il nous a fait 2-3 frayeurs dans le match, mais j'ai vu aussi un Mariano totalement décelé.
C'est une torture pour moi d'être décelé.
Sur son terrain, il était vraiment.
J'ai pas envie que tu me décelles, personne.
Il était vraiment seul et je trouve ça assez dommage. C'est pour ça que sur ce match-là, malgré la prestation offensive, puisqu'il touche quand même plus de 70 ballons, la prestation de Brignac est quand même assez décevante. Moi, celle qui m'a déçu, c'est Plasil. Parce que justement, je l'attendais plus haut sur le terrain. Alors voilà, je sais pas quelles sont les consignes, mais c'est dommage. Et au final, je trouve que Bordeaux avait très bien entamé le match, elle faisait parfaitement ce qu'il fallait. Et si elle avait réussi à tenir en seconde période un peu plus qu'à jouer en contre, je pense qu'on aurait pu mettre une addition encore plus serrée. Mais dans le match, mine de rien, même en seconde période où on a été, j'ai pas envie de dire fébrile, mais un peu plus en difficulté ou moins à notre aise, je pense qu'on se fait 3 de nos 5 plus grosses occasions du match. Je compte pas la dernière, mais on a une tête de CV à 6 mètres qui passe inexplicablement dessus. Une reprise de Maurice Bollet qui passe à côté.
Bon, enfin, il y a le défenseur quand même qui a corner.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est, vraiment à des occasions. Là, c'est des occasions, mais très très nettes de but. Mais si jamais ces deux occasions au fond, il y a 3-0 et on parle pas du tout de la même façon du match. Donc c'est pour ça que je mets juste un bémol. Je suis pas fan du match que Bordeaux a produit parce que je trouve que Bordeaux doit être capable à domicile de au moins tenir le ballon et de n'avoir une mauvaise passe que sur 20 minutes. Mais sur 90 minutes, on a quand même réussi à être dangereux en permanence. Bastia a quasiment pas existé. Je crois qu'ils ont une frappe, une occasion dangereuse. Donc voilà, il y a quand même ce point de satisfaction. Et il y a ce coup magistral dont on parlera, je pense, tout à l'heure dans les notes. À la 93e minute. Donc on va pouvoir te remercier.
Tu veux rajouter quelque chose, Gabriel?
Ouais, moi je voulais juste savoir quelque chose. Sur le dernier but qui a été refusé, soi-disant, pour hors-jeu, il y avait vraiment
hors-jeu? Oui, bien sûr.
Ouais.
Donc, on rappelle
la règle, peut-être?
Ouais, c'est l'avant-dernier joueur adverse. En fait, il faut que le joueur soit derrière le ballon. Dans ce cas-là, il est tout le temps, il n'est jamais en position d'hors-jeu. Sinon, s'il est plus près de la ligne de but adverse que l'avant-dernier défenseur adverse, tout en étant devant le ballon, à ce moment-là, il est en plus.
En fait, je comprends que c'est nécessaire de l'expliquer. Gabi, je vais faire plus simple. En fait, quand le gardien est hors du coup, comme c'était le cas, le dernier défenseur sur le terrain fait office, on va dire, de gardien, il prend son rôle, et voilà. Donc il faut prendre l'avant-dernier défenseur.
Il faut que soit la passe en arrière, comme on dit.
La règle, tu vois, c'est l'avant-dernier joueur adverse.
Oui, mais pas de en fait, dans la règle, c'est l'avant-dernier défenseur, sauf que défenseur ne désigne pas un poste, adverse. Ça désigne le joueur de l'équipe qui défend.
Oui.
Non mais ça je sais parce que moi je suis gardien mais c'est du virage sud que j'avais pas vu.
Je te rassure,
moi enfin, virage sud on voit pas, on peut pas juger. Mais si tu revois un résumé vidéo sur des sites de streaming,
il est pas un mètre, il y a 3 mètres qu'il est.
D'accord, ok.
Voilà. Ah oui, là c'est.
Tu avais une autre question?
Non, c'était tout.
Eh bien, on te remercie alors.
On va te laisser à ta soirée.
Ok, mais de toute façon, je rappellerai après le match de Saint-Etienne, vu que j'ai la chance d'y aller, donc...
Bon déplacement.
Bon déplacement, alors.
Ben, merci.
Parfait.
Bonne soirée.
Bonne soirée à toi, Richard.
Au revoir.
Au revoir.
Donc on.
Alors Dexter va nous rappeler, il va participer aux notes, donc je vous propose qu'on y aille.
Bah, il va peut-être remonter celle des diamantés. Elle n'est pas spécialement basse, ouais, mais bon, elle n'est pas.
Il fait pas un mauvais match, mais il a Modesto, ce qu'il a chip pendant tout le match sur le palco.
Hommage aux adversaires à ce niveau-là.
Oui, non, je ne veux rien changer de toute façon.
Non, tu changeras rien du tout.
Il s'est acquitté de ses tâches défensives, surtout à la fin.
Bon, on va commencer. On commence les notes ou.
Oui, il va nous appeler dans quelques instants.
D'accord. Donc, on va.
Juste, il y a autre choix qui nous dit. Vous compliquez tout. Il faut juste dire simplement qu'il faut deux joueurs pour couvrir un joueur hors jeu de position. Je sais pas si c'est plus clair.
Oui, c'est vrai.
C'est plus clair.
Non, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair. Faut-il rappeler ce qu'il y a un hors jeu de position?
Eh ben, je pense que Ocho sera...
Marc,
non, mais, tu vois, je vais proposer une nouvelle rubrique, la rubrique d'Ocho.
Qui t'explique le grec du foot.
Qui va nous faire notre arbitre à radio, en fait.
Oh oui.
Ah, c'est le monsieur Kinyou de RIG, quoi. Ouais, RMC, ils ont Kinyou.
Moi, j'ai mis des doutes sur...
On a Bruno derrière aussi, ou Philippe Malige, comme vous voulez.
Malige.
Ouais.